Vous écoutez Les Affamés avec Maxime Morin, Thomas Beauchemin et le reste de l'équipe du CRTQ sur les ondes de Chiz 94.3.
Bonjour tout le monde, vous écoutez Les Affamés, vous êtes avec Félix, Nathan et Charles, comme à l'habitude les vendredis. Aujourd'hui, je me suis levé ce matin, il faisait sombre, ça faisait différent, on a eu une belle semaine jusqu'à présent, on a avancé l'heure, il fait beau à l'extérieur, il fait clair, plus tard on se sent bien, c'est sûr que la météo
on a eu un très beau début de semaine, hein. Par exemple, on se sent quasiment comme le printemps, des températures assez douces, quelque chose qui avoisinait les 3 degrés hier. On a senti cette espèce de frivolité là du printemps un peu en avance, puis je pense que ça fait du bien à tout le monde. On en avait tous de besoin.
Exactement, du côté de la météo,
pour la fin de semaine, il semble qu'on va avoir des températures assez clémentes. Ça semble être assez beau en général. On va avoir un total de 4 degrés, moins 2 pour la suite des choses en continuant la semaine. Mais préparez vos sous d'hiver. Ça se peut que ça soit dans les dernières vraies fins de semaine où on va pouvoir sortir puis profiter des activités d'hiver.
Puis présentement, il fait 3 degrés sur Québec avec des possibilités de neige plus tard dans la journée. Alors, ça va être intéressant à suivre de ce côté-là. Qu'est-ce qui va en être? Moi, les gars, on avait une semaine de relâche. J'ai été faire un tour dans mon coin. Dans mon coin en Ontario. Puis en même temps que j'étais là, il y a eu la publicité sur le français qui est sortie. Puis je trouvais ça quand même ironique parce que dans l'Ontario français, il y a plusieurs personnes qui disent que la pub est peut-être exagérée, mais je me reconnais un peu dans la pub, malheureusement. Puis je reconnais du monde que je fréquente pour vrai, qui peuvent aller jusqu'à utiliser certaines de ces expressions-là de façon vraiment
solide. Je suis obligé de te seconder là-dessus parce que même pour un enfant de la ville de Québec, là, moi j'ai grandi vraiment Rive-Sud, Rive-Nord, dans l'agglomération de la ville de Québec. Puis malheureusement, ça représente quand même certains groupes de personnes, que ce soit de mon âge ou un petit peu moins âgé, dans la vingtaine de cette génération-là. Ça représente quand même un peu bien comment ces gens le parlent.
Pour les gens qui n'ont pas entendu la pub, là, dans le fond, c'est plusieurs anglicismes là, qui sont utilisés pour décrire le faucon pèlerin. Je vais vous la faire entendre à l'instant. Ça va être encore plus parlant que mes explications, dans le fond.
Le faucon pèlerin. Cet oiseau de proie vraiment sick est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré que ses skills de chasse soient insane, l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch.
Puis ensuite, on a au Québec, le français est en déclin, renversons la tendance, qui est un message. Puis c'est ça, le but de la pub au final, c'est d'avertir les gens que le français ne va pas bien. Il est temps qu'on agisse de ce côté-là.
Puis ça, on peut voir que indirectement là, cette pub là fait énormément beaucoup jaser. Tu sais, je crois que le but de cette pub est de vraiment prendre l'ampleur du problème du français, parce que on va se dire, on imagine un documentaire animalier, on imagine Charles Tisser en train de nous expliquer une formule nucléaire et qui utilise le mot chiller, watcher et sketch.
C'est vrai, on a l'impression d'écouter un monologue de genre Hubert Reeves, puis finalement, ben c'est vraiment juste une espèce de... Mon problème là avec cette pub-là, pour de vrai, là je vais me partir. Mon problème avec cette pub-là, c'est absolument pas ce qu'elle dénonce, le fait qu'on anglicise le français. C'est une malheureuse réalité. J'ai aucun problème avec le fait qu'on mette ça sur le spot un peu pour utiliser un anglicisme dans cette tirade. Mon problème, c'est avec le ton. Tu sais, l'affaire, c'est qu'on peut nous expliquer, on peut nous faire comprendre pourquoi c'est important d'utiliser... Je parle de nous en tant que génération moins de 20 ans, mettons. On peut nous faire comprendre que c'est important d'utiliser le français sans anglicisme, le français en tant que belle langue, en tant que langue complète et comment je pourrais dire ça, juste en tant que langue, sans anglais, sans y rajouter des anglicismes. Puis justement, pourquoi utiliser ce ton-là qui est un peu moralisateur, qui nous fait un peu prendre pour ces idiots-là?
Mais je pense que la réalité veut que la pub, en la mettant dans un style de documentaire animalier, ça fait que ça le rend encore plus évident. Parce que dans une discussion normale, il y a des expressions de la sorte qui peuvent se caler, puis ça fait pas nécessairement une grosse impression, mais dans un style documentaire animalier. Puis la pub, elle a évidemment un double sens là, avec le fait que le faucon pèlerin, c'est un oiseau en voie d'extinction. Puis là, on fait un peu la comparaison à la fin. Là, malgré tout ça, son futur demeure très sketch. Mais je pense que c'est le double sens de la pub vient nous dire, vous voyez, le français, il est un peu comme le faucon pèlerin. Là. C'est cool, le français, c'est sympathique, mais c'est en train de disparaître.
Mon cher Félix, c'est sûr que le but de la pub, c'est de choquer. Puis
j'ai une question pour vous, messieurs. Tu sais, je veux dire, on regarde beaucoup qu'est-ce qui se passe en France. Et il y a de plus en plus d'anglicismes qui sont acceptés.
Et, en France?
Ouais, en France.
Je sais pas, je suis pas au courant de ce dossier.
Puis, par exemple, des titres de films qu'on va garder dans leur, dans
la langue maternelle. En France, ils changent pas les titres comme on fait
au
Québec.
Au Québec, on est les seuls qui traduisent les films.
On dirait que l'anglicisme est beaucoup plus, accepté. Et qu'est-ce que j'ai remarqué dans cette pub-là, c'est qu'un peu comme notre collègue a mentionné tantôt dans le deuxième service du réchaud, on s'attaque vraiment à une génération
de
gens. Et honnêtement, je trouve que tout le monde au Québec va utiliser des anglicismes. Donc, je trouve que c'est venir généraliser une partie de la population quand tout le Québec au complet.
C'est justement le point que le député solidaire, le Vincent Marissal, y amenait. Il dit que la pub s'attaque injustement aux jeunes. Selon lui, les ados, ils en ont des expressions puis ils changent régulièrement. Puis il dit que lui, avec ses enfants, il a même pu constater ça. Là, ses enfants, ils ont des expressions qui changent. Puis il dit c'est normal. Puis il remarque aussi que la pub, elle a coûté 500 000 $ puis qu'elle a comme cible les ados, justement, mais qu'il croit, lui, personnellement, c'est pas la bonne cible. Selon lui, les ados, justement, sont une partie du problème, mais le problème, il est plus lié à... Ben, on leur apprend le français à ces jeunes-là. Alors, il y a peut-être un problème au niveau de l'éducation de la langue française. Puis, ils rapportent justement le rapport là, sur la maîtrise du français au collégial qui dit que certains cégeps sont contraints d'embaucher des candidats qui n'ont pas les compétences nécessaires en français avec la pénurie de main-d'œuvre. Alors, est-ce que le problème, il est plus dans les écoles? C'est-tu les jeunes? Personnellement, je sais que j'ai vécu une réalité quand même qui a changé. Là, quand je suis arrivé, moi, j'ai resté en Ontario, j'ai fait mon secondaire en Ontario. Je suis arrivé cette année au Québec pour le programme. Puis il y a des erreurs de français que je faisais qui sont basiques, là, qui sont évidentes pour vous, mais que je me suis jamais fait renoter avant. Dans mes cours de français, j'ai fait des présentations orales, on m'a jamais renoté à ce niveau-là. Fait que
c'est justement le but de la pub. C'est pourquoi elle me fâche. Je pense c'est que nos générations précédentes, je veux revenir sur deux points d'ailleurs que tu as abordé. Déjà, 500 000 $ pour des stock images de National Geographic, c'est quand même quelque chose. Puis,
c'est beaucoup de droits d'auteur. Hein?
C'est beaucoup de droits d'auteur. Puis surtout, là où ça me fâche, c'est que effectivement, les générations antérieures, nos générations antérieures utilisaient autant, sinon plus d'anglicisme que nous. Quand on parle de mécanique, quelconque sujet qui est très technique, très précis, on va utiliser beaucoup d'anglicisme parce que c'est simplement la façon
mais
la plus efficace
pas,
de le faire.
Ça serait pas l'équivalent du familier à l'époque où ce qu'on amenait les sacres
là,
un peu plus
dangereux.
Portés, les illusions un peu plus courantes, ça, c'est pas
mais
un peu l'équivalent.
Ce qui est dangereux, je pense, Fork, c'est que la pub essaie de dénoncer surtout, puis je pense qu'on peut clore là-dessus, ce que la publicité essaie de pointer du doigt, ça va vraiment être l'incorporation de ces anglicismes-là dans ce langage courant, familier-là. Avant, on utilisait un anglicisme quand on parlait de char, mettons.
On le parlait tantôt, les brakes au lieu des freins.
T'as changé tes wipers, mon gars.
On avait des sujets précis, des raisons d'utiliser des anglicismes.
Ben, on avait vraiment une raison, c'est parce que ça sonne mieux,
mais
plus simple.
On va dire que c'était réservé à un moment plus précis. T'sais. C'est là ce qui fait peur au fervent défenseur du français, dont je fais partie d'ailleurs, puis ce que la pub vient dénoncer, c'est vraiment l'utilisation de ces anglicismes-là, puis l'implémentation de ces anglicismes-là dans un langage courant, dans notre façon de parler de tous les jours.
Ben moi, ultimement, j'ai l'impression que la pub, elle fonctionne, parce qu'elle remet les gens en question, puis d'où c'est qu'il vient le problème? C'est quoi les options pour le régler? Puis, on en parle du français tout le temps, mais là, ça fait vraiment une vague. On a des gens au gouvernement qui disent, moi, je pense que le problème, c'est ça, on devrait faire ça pour le régler. Alors, même si la pub, elle a des défauts, elle a des problèmes, peut-être qu'elle ne s'adresse pas au bon public, ou etc., je pense qu'elle fonctionne. Ça fait en sorte qu'on en parle, on en discute. Aujourd'hui, là, ce qu'on fait, on en parle, on cherche d'où vient le problème, puis on se remet en question. La pub, elle a un style humoristique qui vient choquer certaines personnes, marquer d'autres. J'ai notamment vu là, sur TikTok là, des commentaires de jeunes « Ah, ça me donne encore plus le goût de parler franglais maintenant. » Tu sais, c'est un peu l'opposé du but de la pub au final.
Ben, en même temps, quand le gouvernement va essayer de rentrer quelque chose dans la bouche des jeunes, ça
exactement.
Va toujours,
ça
va
ça
toujours
passe,
passer
ça passe
pour le contraire.
Vraiment bien, là. Fait que c'est sûr que c'est de quoi qui
Un combat de tous les jours.
Exactement. C'est un combat de tous les jours. Tu l'as bien dit, Nathan, à ce niveau-là. Toi, tu voulais nous parler un peu du drame à Amqui qui s'est passé. Le François Legault le drame, qui parle...
Ça fait déjà quelque temps que ce drame s'est déroulé. Mes plus profondes condoléances à la famille et aux victimes, bien sûr. Là, ce qui s'est passé, en fait, c'est que François Legault est allé à Amqui porter condoléances et faire un discours aux familles touchées directement par le drame, suivi de ses comparses chefs de parti. On avait Marc Tanguay, Paul Saint-Pierre Plamondon et Gabriel Nadeau-Dubois qui sont allés se recueillir sur les lieux du drame. Puis ce qu'on en a surtout tiré de cette rencontre-là, là, c'est que M. Legault, il reconnaît un certain problème, une complexité d'accès à l'aide en santé mentale en région. Puis ça, c'est un peu un pas en avant dans la cause de la santé mentale. Mais ce que j'ai peur, moi, dans tout ça, c'est peut-être qu'on focus pas sur le nerf du problème, sur le centre du problème.
T'sais, j'ai vraiment hâte de voir concrètement qu'est-ce que le gouvernement va proposer pour être en mesure de venir pallier à ce manquement-là. Je sais que, t'sais, le Centre des services sociaux, le CIUS, justement là, du Bas-Saint-Laurent était très présent pour aider justement les gens qui ont vécu là, justement des traumatismes par rapport à ce drame. Mais ça reste que ça fait plusieurs années qu'au Québec on se rend compte que la santé mentale est tabou, que la santé mentale est problématique et que c'est difficile de discuter de dossiers de santé mentale et que à chaque année on a des histoires d'horreur de personnes qui décèdent en raison que le système les abandonne.
Ça fait un mois à peine là, qu'on a un autre cas de la sorte là, du monsieur qui était rentré dans une garderie à Laval. Là.
Exact.
C'est pas normal qu'on vienne à avoir une certaine régularité, à avoir un pattern qu'on voit ressortir. Là. Ça n'a aucun sens dans des drames pareils. Puis je pense que là où c'est sûr que ça serait important et même que ça aiderait d'investir en santé mentale, de continuer à investir justement dans les hôpitaux, je pense que c'est la prévention, moi, qui va vraiment venir changer les choses à ce sujet-là. Je veux dire, on a un monsieur qui n'est pas allé à l'hôpital avant de rentrer dans son véhicule. Malheureusement, il n'est pas allé à l'hôpital.
Mais je crois pas qu'on en fait pas de prévention, là. J'ai l'impression qu'on en fait beaucoup, mais tu peux pas...
Est-ce qu'on la fait bien, puis est-ce qu'on en fait assez?
Tu peux pas obliger quelqu'un à aller chercher l'aide.
Non, mais je comprends,
mais
j'ai vraiment l'impression que l'aide est donnée lorsqu'on est à l'extrême. Lorsqu'on est à la limite.
Le monsieur était quand même pas mal à l'extrême, là, pour rentrer dans son champ.
Non, mais on est... Ben oui, mais ça, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, il avait été déjà reconnu comme une personne à risque. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on doit toujours se rendre à l'extrême. Ce qui veut dire que soit quelqu'un va dire, c'est aujourd'hui que je mets fin à mes jours pour qu'on soit en mesure d'avoir des ressources d'aide et que...
Exact.
Et moi, je crois qu'il doit avoir des problèmes de prise en charges qui sont faites dès les premiers symptômes. Puis je sais que c'est difficile. C'est un stigma parler de santé mentale. Mais il y a tellement d'histoires d'horreur qui se passent. Puis j'ai tellement hâte de voir comment ils vont être en mesure de régler ces problèmes-là, parce qu'on va toujours se rappeler là de la petite Amélie Champagne qui justement a été malheureusement abandonnée par le système. T'sais, se rappelle, c'est une histoire qui date de il y a un an environ, une jeune femme de 22 ans atteinte de la maladie de Lyme qui a été hospitalisée au CHU de Sherbrooke et qui s'avait fait déclarer apte malgré des envies suicidaires. Le psychiatre l'a déclaré apte et malheureusement, elle s'est enlevé la vie. Et il y a tellement de failles dans le système actuellement que je dis oui, on trouve le problème, mais est-ce que ça va faire du patchage comme qu'est-ce qu'on fait sur nos routes ou on va être en mesure de trouver une solution?
Ben, comment aider ces gens-là? C'est la grande question qu'on se pose,
hein,
je pense.
Présentement, je pense qu'on a un système qui est à court terme peut fonctionner sur le court terme d'une personne. Quand la personne est en crise, on en discutait tantôt, il y a de la place, tu peux aller à un hôpital, ils vont te prendre en charge.
Si tu rentres dans un hôpital puis tu cries « je vais me tuer, je ne vais pas bien, aidez-moi », les gens vont t'aider.
Ils vont t'aider, mais le problème, c'est que les
gens qui commettent des actes comme Amqui ne font pas ce geste-là.
Mais la chose aussi vient que après cette étape-là, après le court terme, le moment intense de la crise est passé, on va te laisser aller, mais là, ça peut prendre du temps avec l'aide à long terme soit accessible.
Oui,
c'est vrai. Je crois qu'il y a le problème. Parce que tu peux aider quelqu'un à court terme au moment intense de la crise, mais ça enlève pas le fait que le problème est encore là. Il est peut-être pas à l'extrême comme il était quand il est rentré dans le court terme, comme je dis, mais quand il ressort, là, ça va pas nécessairement parfaitement mieux, puis il y a plus de problèmes.
Effectivement,
les problèmes sont encore là, puis la question,
les problèmes sont encore là, puis
pourquoi il n'y a pas de suivi?
Il n'y a pas de suivi parce que, de un, c'est ça, je suis pas un expert. S'il y a quelqu'un qui veut nous texter, c'est pour si je me trompe sur un sujet. Mais la psychologie, ça a longtemps été considéré, je pense, un peu comme la dentisterie. Dans le sens que, tu sais, c'est au privé. Tu payes un psychologue de ta poche. C'est cher. Tu sais, il y a des psychologues publics.
Ouais, ça, il y en a au public.
Il y en a au public, mais ils se font rares. De un, je pense, parce que c'est plus lucratif d'être un psychologue au privé. Puis de deux.
Je pense que c'est les. En tout cas, je veux pas aller en détail, là, mais j'avais vu de quoi sur les conditions de travail. Puis tout
ouais,
ça,
les conditions de travail
tout, là,
sont
fait que...
au public sont pas. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup plus d'avantages, je crois, pour un psychologue d'être au privé, là, tu sais, dans le personnel. Mais l'affaire, c'est que ces psychologues publics-là qui font le sacrifice de travailler pour la fonction publique, eh ben ils sont débordés, ils ont énormément de patients, puis s'ils veulent aider les gens, s'ils veulent faire une bonne job, ben on peut pas leur en mettre 1200 des patients, là. Tu sais, un psychologue, faut que ça crée un lien avec toi si tu veux pouvoir vraiment grandir dans l'aide qu'il t'apporte. Puis on peut pas y engarocher 1250 des liens, sinon lui, ben il en crée pas. Puis je veux dire, moi, je le blâmerai pas pour ça, là. Je serais pas capable non plus d'en créer des liens avec 1200 personnes, là.
Ben il y a aussi chaque cas est différent puis ça prend une partie de son énergie là que tu sais je veux dire
puis ces psychologues débordés là
ouais, au-delà de créer un lien faut que tu sois physiquement toi aussi capable de prendre tout ça parce que quelqu'un qui te raconte son choc là je veux dire ça doit pas être facile il y a du monde ça doit vraiment pas bien aller puis ça doit pas être facile là, de travailler avec ça puis d'entendre tout ça parce que ça, c'est des choses qui sont touchantes
la psychologie ça doit pas être un domaine facile ça c'est sûr mais surtout là le fait qu'il y ait moins de psychologues publics, ben ça fait que il faut de l'argent pour être traité au long terme. Si tu sors de l'hôpital puis que tu veux avoir un psychologue puis une thérapie tout de suite, ça va te coûter cher. Ça va te coûter cher, c'est une réalité, c'est malheureux, mais ça va te coûter cher. Est-ce que là les assurances emploi, il y a beaucoup plus d'ouverture, je pense, dans les dernières années par rapport à l'aide monétaire visant la santé mentale, mais ça va te coûter cher. C'est une réalité. En 2023, si tu sors d'une semaine à l'hôpital parce que t'étais en crise, puis que tu veux continuer à avoir un bon traitement, puis avoir une thérapie ou whatever, ça va te coûter cher. Puis je parle de cher dans les milliers de dollars.
Mais je pense aussi que on normalise de plus en plus le tout. On a vu le Carey Price sortir là, dans la presse, aller dire que oui, ça allait pas bien, puis qui a été dans des moments sombres. Puis je crois que c'est quand même, je crois que c'est une bonne chose de voir des figures publiques sortir puis dire à tout le monde que oui, j'ai eu des problèmes, ça a pas toujours bien été, puis que c'est correct, que ça va passer ou qu'il y a de l'aide en place. Puis j'ai l'impression que ça normalise le tout parce que si quelqu'un comme Carey Price peut en avoir, tout le monde peut en avoir, tu comprends, c'est un peu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que.
Carey Price, il y a un léger avantage d'être multimillionnaire.
Oui, mais c'est justement ce que je veux dire. Si quelqu'un avec son statut, il peut avoir des problèmes. Ben, tout le monde est capable
avoir des problèmes. Ouais, ok, sûr. Je pensais que tu parlais d'aide. Excuse-moi.
Non, je parle pas d'aide. Je parle de.
Mon erreur, je suis désolé.
Ok, c'est bon. Charles, du côté des interpellations aléatoires, là, on se rappelle, il y avait eu une loi qui avait passé, le Québec avait été en appel, puis ça, il y a un peu d'autres
exactement,
infos dans le dossier.
Depuis octobre 2022, c'est une histoire qui fait couler beaucoup d'encre. Donc, on se rappellera toujours là, du jugement là, justement là, de la Cour supérieure qui ordonne la fin des interceptions sans motif réel des automobilistes. Ce pouvoir arbitraire sert pour certains policiers de sauf conduite de profilage racial à l'encontre de la communauté noire, c'est une définition que j'ai trouvée, qui a conclu le juge qui a mené justement ce procès-là à la Cour supérieure, qui a rendu ce jugement. Le Québec est allé en appel comme ça, mais on a appris cette semaine que, et François Legault a utilisé les mots, le party est fini. Il est temps que le profilage racial cesse.
Le party est fini, c'est vraiment les mots qu'il a utilisés?
Ouais, le party est fini. Le party est fini dans les corps
un
de police.
Un drôle de choix de mots. Hein?
Le party est fini dans les corps de police.
Mais je pense que ça le résume bien. Tu dis un drôle choix de mots, mais en réalité, c'est que ça veut dire vous pouvez plus faire ce que vous voulez. Là. C'est plus le fun.
Ah oui, c'est des mots forts. Là. Ouais. Ça, je pense que le message qu'il voulait passer avec ces mots-là, c'est le party est fini. On sait qu'il y a eu des abus, puis il n'y en aura plus.
Mais c'est pas, tu sais, moi je crois que honnêtement, comme dans toute sphère de la société, il y a des personnes qui sont racistes, il y a des personnes qui vont utiliser ce privilège là honnêtement malheureusement dans le corps policier, mais le projet de loi qui a été mis en place par François Bonnardel pour justement venir contrer ça, donc il va avoir une surveillance accrue sur les différentes arrestations faites par les policiers, ce qui veut dire que pour monsieur madame tout le monde, c'est un petit peu comme un bulletin que t'avais en troisième année avec des collants.
Mais je veux dire comme une petite pyramide de bon comportement.
Une pyramide de bon comportement. Ce qui veut dire qu'il va y avoir des sanctions qui vont être mises en place sur des arrestations qui sont jugées non conformes ou qui sont jugées comme du profilage racial. Mais il est grand temps qu'en 2023, on aille un premier ministre, on aille un gouvernement qui se réveille puis qui se dit, hey, qu'est-ce que les communautés ont comme problème doit être traité.
Mais c'est parce que moi, j'ai l'impression, là, oui, on va demander des dossiers, on va demander les rapports d'arrestation, qu'est-ce qu'il y en a au niveau des races, etc., pour faire sûr qu'il n'y ait pas un abus, etc. Mais c'est parce que les bodycams, par exemple, là, c'est en place justement pour aider à ce problème-là. Puis, au final, il y a encore des problèmes malgré ça. Puis, mais on est capable de... Ça va arriver que c'est contourné. Être contourné dans les rapports aussi, j'imagine.
Je crois qu'il va y avoir une mise en place. Qu'est-ce qui est intéressant, ce que le chef de police de la ville de Montréal a admis quand il y avait du profilage racial à Montréal.
Ben oui, mais c'est ça que je retire de tout ça. En tout cas, c'est qu'ils l'ont admis.
Déjà, le fait d'admettre qu'il y ait un problème... Mm-hmm. Et un pas vers la bonne direction.
Ouais, c'est un pas pour les excuses.
J'ai poussé encore plus loin. Qu'est-ce que je trouve dommage, c'est que ça a pris 15 ans. 15 années pour la famille du jeune monsieur Villanueva qui s'est fait assassiner en 2008 suite à une altercation policière qui a mal tourné. Le jeune faisait juste jouer au dé.
Il a pas eu de chance.
Et malheureusement, il a été assassiné par la police. C'est une enquête et les policiers ont été, si ma mémoire est bonne, ont été blanchis ou des sanctions qui sont très minimes. Donc, ça a pris 15 ans avant qu'en tant que gouvernement, on se décide de mettre en place un projet de loi devant la Chambre bleue pour venir contrer ça. Mais je suis content de savoir aussi que mes amis, les minorités visibles, vont être en mesure de pouvoir se promener dans la voiture qu'ils veulent, vont être en mesure de se promener à l'heure qu'ils veulent, vont être en mesure de se promener où qu'ils veulent sans avoir peur de se faire contrôler, sans avoir peur de se faire arrêter parce qu'il se promène en Mercedes de l'année.
Oui, c'est presque un appel à la liberté, ça, pour les communautés qui se sentaient opprimées avant. Ils sentaient peut-être une espèce de, je dirais pas une paranoïa, mais une espèce d'oppression, justement, quand ils sortaient sous certaines conditions, comme tu disais.
J'ai des amis qui me racontent des histoires d'horreur à Montréal. Qui voient des amis se faire contrôler simplement parce qu'ils sont dans un quartier comme Montréal-Nord, qui est un quartier pour être reconnu, qui est un petit peu plus rough de Montréal. Tu sais, la personne... Puis c'est souvent physique. Le gars des dreads, pantalon bas...
C'est du profilage racial, c'est du stéréotype. Est-ce que c'est vrai ou non? Je pense qu'on a quand même... Ça fait un petit bout qu'on sait... Désolé. Mm-hmm. Qu'on sait que le profilage racial, ben c'est vraiment pas une bonne façon de contrer le crime.
Moi, ce que je trouve rassurant là, dans l'article au final, ce que je suis capable de retenir puis de comprendre qui est une bonne chose, c'est que avec les rapports qui sont demandés, etc., on peut éventuellement exiger un policier qui pourrait faire un abus de pouvoir ou du profilage racial, aller chercher une formation autre, aller le reformer, le suspendre ou lui donner des pénalités qui sont liées à tout ça. On parle aussi d'ajouter 45 heures au programme de formation des polices. Alors,
mais 45 heures?
45 heures, c'est vraiment pas ça.
Combien de temps ça prend pour étudier le barreau?
On peut pas leur demander d'être avocat, mais c'est la solution ultime, mais de rajouter 45 heures, déjà, ça veut-tu dire qu'on accepte qu'il y en a un problème et qu'on a besoin de mieux les former, nous, au corps policier? Ça veut dire que tant qu'à moi, c'est un début.
Moi, j'ai vraiment hâte de voir comment les syndicats vont réagir à cette décision-là. Syndicats des corps de police, mais c'est un pas dans la bonne direction puis c'est un pas vers la liberté.
C'est un pas vers la liberté, c'est un pas vers la bonne direction. Puis former les policiers, c'est peut-être le seul bon moyen, parce que je veux dire, réalistiquement, on pourra pas enlever le corps policier. Tu sais, on peut pas vivre sans policiers dans notre contexte actuel. Fait que les former, c'est peut-être le seul moyen. Je veux dire, moi, j'ai toujours eu un certain malaise avec le fait qu'on n'ait pas tant de formation pour quelqu'un qui, sa job, c'est d'avoir un fusil sur lui puis d'intercepter des gens. Mais qu'on en rajoute de la formation, moi, ça me fait juste me rassurer.
Je pense que c'est rassurant. On va se laisser sur une petite pause musicale et publicitaire avec l'AF et Tangerine.
Soit être là, pas me taire. Si on me trouve, faut que j'ai pas de sa tête. Les yeux rouges de son poche par terre, tout déchiré. Yeah. Elle est si belle quand je passe la taille. Sourirant quand sirène, c'est l'extase, ça me plaît. Je dois faire grimper les décibels, elle me repasse la taille, je suis déchiré.
Le soubresaut du cœur, valsant l'année longue. À mort, la pluie, le tonnerre.
c'est pas en vague de chaleur. L'attentat fixé, la ferme en prise du présent. En coccinelle, en libellule, cervelle aux éléments. Ben tourbillon de rêve, une trêve après la guerre. Ma lune de tangerine saignée longtemps pour la peine. Semer les rodés en toute immobilité. À deux doigts de goûter la vie de l'os est détachée. Éclairé par un moonlight, on start la braise avec le journal. Run mon chum, vas-y cours loin. Summer hustle contre le courant. Soup à bide, hot dog, pâte aux sauces, plein le belly. Mais j'ai passé toute la nuit à vivre la vie d'une libellule. Tempo libéré, tant que les pulsions sont libérées. Tant qu'on pourrait rock and flow, j'continue de dire qu'on est béni. Travail en ébéniste, feedback seront peinés. Crier toute mon âme si j'en veux plus, ça me guérit. Frérot, I'm a get it, frérot, I'm a get it. Sur ce good love, en book, on est ready pour les Guinness. Éclairé par un moonlight, on start la braise avec le journal. Run mon chum, vas-y, cours loin. Hit the road sur un coup de tête. Yeah, ouais. Ferme-moi dans tes fossettes. Comment faire exploser ce rap? Mon cœur suit jamais le faussaire. Non, non, non. Y'a que les tarés qui changent pas de manière. Faut se décider, faudrait se tailler. J'suis en âge de la veine. Faut qu'une carie prise dans le fossé. J'veux des grosses scènes. Ouais, ouais, ouais. Yeah, yeah, yeah. Ferme-moi dans tes fossettes. Comment faire exploser ce rap? Mon cœur suit jamais le faussaire. Faudrait stayer, j'suis en âge de la veine. Fucking caresse dans le fossé, j'veux des grosses scènes. Ouais, ouais, ouais. Un soubresaut du cœur valsant à l'année longue. Amour, la pluie, le tonnerre quand il s'épanouit en vague de chaleur. L'attentat fixé, la ferme en prise du présent. En coccinelle, en libellule, cervelle aux éléments. Ben tourbillon de rêve, une trêve après la guerre. Ma lune de tangerine a saigné longtemps pour la peine. Semer les rodés en toute immobilité. À deux doigts de goûter la vie de l'os est détachée. Yeah.
La ville de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chisiennes? Visite le www.chise.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chise.ca.
Pour entendre la dernière chanson des Shirley, savoir ce qu'Olivier Arthaud fait en théâtre ces temps-ci et être au courant de tous les événements organisés par le collectif Ramen, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. T'as aucune idée de qui je viens de te parler? Raison de plus pour ouvrir ta radio de 16h à 17h30 tous les jours de semaine.
Chérie, j'arrive!
Imaginez-vous au comptoir d'un bar caché dans une ruelle. Les murs sont en pierre, les meubles en vieux chêne, et il y a un orchestre jazz qui joue au fond de la pièce. C'est dans cette ambiance que l'on vous accueille un lundi sur deux à 11h sur les ondes de Chiz 94.3 pour entendre les auteurs et les autrices de Québec. Le cabaret du crachoir, prolongement de la revue Le crachoir de Flaubert, offre à vos oreilles de véritables soirées littéraires. Les lundis matin.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Desjardins, c'est un monde de possibilités de carrière. C'est plus de 800 types d'emplois dans plusieurs domaines au-delà de la finance comme l'éducation, les technologies de l'information et les communications. Évoluez au sein d'une entreprise qui vous permet de vous réaliser autant dans votre vie professionnelle que personnelle. Avec des centaines de millions remis aux membres et à la communauté par année, chez Desjardins, vous ne bâtissez pas que votre carrière, vous bâtissez plus grand que vous. Trouvez un poste près de chez vous sur desjardins.com/carrière.
Vous écoutez Les affamés mémémémé avec Félix Olivier Rochon Côté, Charles Manta et Nathan Gagné.
Vous êtes de retour avec Félix, Charles et Nathan. On reçoit Jordan Prue, chargé de cours à l'Université Laval et administrateur de la page Passion Militaria, pour discuter un peu des nouvelles dernières heures avec la guerre en Ukraine. Là, Charles, tu vas nous parler de ça un peu plus en détail.
Monsieur Prue, vous allez bien?
Oui, très bien, vous.
Ben oui, ça va bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, avant de rentrer on a vu que la Cour pénale internationale a mis un mandat d'arrestation envers Vladimir Poutine. Chose qui est très, très surprenante, surtout lorsqu'on vient regarder les détails de ce mandat-là, qui mentionne que M. Poutine aurait commis des crimes de guerre, chose encore qui n'est pas surprenant, mais surtout lié à des enfants.
Oui, tout à fait, oui. Alors, dans les milieux un petit peu liés à la politique internationale et à la justice internationale, c'est un bruit en fait qu'on entendait parler depuis quand même quelques jours, que des hauts responsables russes seraient pointés du doigt par la Cour pénale internationale. La petite surprise est que c'est directement Vladimir Poutine. Alors, il y a deux personnes qui ont eu un mandat d'arrêt. Il y a Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova, la commissaire présidentielle russe aux droits de l'enfant. Ce qui est étonnant, dans un premier temps, c'est que la CPI met en avant, vous l'avez très bien dit, la question des enfants, de la déportation illégale d'enfants ukrainiens depuis le 24 février 2022 et le début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. On aurait pu penser qu'avec la documentation journalistique, des médias, des crimes de guerre, des soldats abattus sans jugement, des soldats, tout ce qu'on peut voir sur les télévisions et sur les réseaux sociaux, la Cour de justice internationale a décidé de commencer ses actions face aux responsables russes par la question des déportations illégales d'enfants. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que elle met en avant, donc c'est la chambre préliminaire 2 de la CPI, qui met en avant une déportation illégale de population et un transfert illégal de population. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, pour schématiser, les soldats russes sont entrés en Ukraine, ont kidnappé des enfants pour les envoyer en Russie. C'est aussi simple que ça. La Cour pénale vient sanctionner cet état de fait.
Puis, est-ce qu'on sait ces enfants-là ont été utilisés dans quel but?
Alors, ça reste assez nébuleux sur la question des enfants. On peut dire que ce ne sont pas utilisés, vous savez, comme des boucliers humains ou quoi que ce soit. Ce ne sont pas des enfants qui sont restés en Ukraine. Parce que s'ils avaient été déplacés en Ukraine, peut-être que la Cour pénale internationale n'aurait pas émis cette actualité. C'est que les enfants ukrainiens ont été sortis d'Ukraine. Ils ont été amenés en Russie. Beaucoup ont tracé un parallèle entre ce que fait la Russie aujourd'hui et ce qu'a pu faire le régime nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire aller dans les territoires occupés, récupérer une partie des enfants, une partie de la jeunesse, pour grossièrement la rééduquer, pour les mettre, entre guillemets, au principe russe, c'est-à-dire leur donner un enseignement russe, une vision russe, un historique russe, pour ensuite, dans une Ukraine pacifiée, ramener ces populations désormais pro-russes dans la partie d'Ukraine qui n'est pas russe à la base.
Donc, si je comprends bien, je sais que le but à la base était de venir dénazifier l'Ukraine. Est-ce que on a des oui-dire du fait que ces enfants-là pourraient être utilisés comme soldats pour venir un petit peu rebrousser les troupes russes?
Pour l'instant, on parle de quelques milliers. C'est la base sûre qui est reconnue par de nombreux médias et de nombreuses organisations internationales. On parle pas de 500 000 enfants. On parle de quelques milliers d'enfants qui sont pour l'instant très jeunes. De mémoire, ça va jusqu'à une douzaine d'années. Donc, on est vraiment sur des enfants qui ne sont pas en âge de combattre.
Non, c'est ça. Ça serait pas des enfants soldats. En fait, on veut pas aller vers qu'est-ce qui s'est passé en Afrique. En fait, là, c'est ça.
Non, pas du tout. C'est vraiment une vision plus idéologique et d'après-conflit. Faut aussi se garder à l'idée que ce plan d'aller kidnapper des enfants ukrainiens a été déclenché dès le 24 février 2022. Le monde entier, et notamment l'armée russe, est persuadé que l'armée russe va gagner en quelques semaines. C'est-à-dire que, en quelques semaines, l'armée russe doit prendre possession de toute l'Ukraine. Pendant ce temps-là, on déclenche le kidnapping des enfants, et à l'issue de cette victoire russe attendue, on rapatrie les enfants ukrainiens en Ukraine, des enfants ukrainiens qui seraient pro-russes. Ça ne se passe pas du tout de cette manière-là. L'armée russe, malgré ses victoires, ses petites avancées des dernières semaines, ne remportait pas de victoire définitive. Et donc, cette histoire de kidnapping d'enfants, en fait, devient un petit peu problématique pour les Russes. C'est-à-dire qu'ils ont kidnappé des enfants, mais ils ne peuvent pas les renvoyer en Ukraine. Donc, pour l'instant, en fait, dans le plan russe, dans la vision russe des choses, les enfants sont... sont même pas une monnaie d'échange, pourrait devenir une monnaie d'échange. C'est-à-dire que dans le cadre de négociations, le président russe, parce que c'est directement Vladimir Poutine qui est visé, pourrait tout à fait dire, on garde le Donbass et les provinces à l'est, et puis en échange, on vous rend les enfants que les troupes ont kidnappés. Tout est ouvert avec cette idée des enfants kidnappés. La Cour pénale... aujourd'hui, elle met un marqueur fort, mais qui reste symbolique malgré tout. C'est-à-dire que personne ne va aller mettre les menottes à Vladimir Poutine. Absolument personne.
Puis, est-ce que dans le climat international politique, il y a d'autres pays là, qui ont peur de subir des kidnappings d'enfants ou cette espèce de brainwashing de leur culture par le peuple russe?
Un petit peu comme la Biélorussie, par exemple.
Oui, des pays entourants, par exemple.
Alors, la Biélorussie, c'est un petit peu un cas à part, si je veux dire, parce que c'est un pays allié, très très allié de la Russie. C'est-à-dire qu'ils ont il y a des rendez-vous entre les deux présidents réguliers, il y a des échanges d'informations, les services d'enseignement travaillent ensemble,
les armées arrivent,
des opérations courantes. Donc, on va vraiment laisser de côté la Biélorussie. La Moldavie, par exemple, elle pourrait se retrouver dans un cas... qui borde l'Ukraine, qui est entre l'Ukraine et la Roumanie, elle pourrait se retrouver à court terme ou à moyen terme devant cet état de fait. D'une manière générale, ce sont tous les pays de l'Est qui forment la nouvelle frontière de l'OTAN, c'est-à-dire la Pologne, la Roumanie et les Pays-Baltes. Je tiens à rappeler que l'Estonie possède une frontière en commun avec la Russie. C'est pour ça que l'armée française est qui a ce qu'on appelle un battle group de l'OTAN, qui est positionnée en Estonie, parce que l'Estonie a une frontière directe avec la Russie. Et ces pays s'attendent, ou s'attendraient potentiellement, à un déploiement de forces russes massif. Ce qui n'est pas encore tout à fait le cas.
Moi, j'ai comme question... Ben, dans le fond, c'est sûr. On lance un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. On dit aussi, comme tantôt t'as dit, c'est surtout symbolique. Au final, c'est un symbole parce que personne va aller lui passer les menottes. Mais est-ce que ça donne un pouvoir certain aux alliés ou à quelqu'un d'autre nécessairement?
Oui, concrètement, ça change quoi, là?
Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Cour pénale internationale n'a pas de pouvoir en Russie et en Ukraine. L'Ukraine a reconnu la structure, mais ne reconnaît pas tous les engagements et toutes les décisions prises par la Cour pénale internationale n'ont pas trait en Ukraine et en Russie. Néanmoins, ce que cela veut dire, c'est-à-dire que si, par exemple, dans 6 mois, la paix est signée entre l'Ukraine et la Russie, et Vladimir Poutine est invité, par exemple, à un G8 au Canada, en France, en Allemagne, peu importe. Et là, il pourrait se retrouver sous le mandat d'arrêt, s'il est toujours en vigueur. Aujourd'hui, en Russie et dans les pays alliés comme la Chine, comme le Kazakhstan, comme tous les pays, la Biélorussie que vous citez, il n'y a aucun problème pour Vladimir Poutine. Néanmoins, si ce mandat d'arrêt reste actif et qu'il est amené à retourner, par exemple, en Europe occidentale ou en Amérique, là, ça posera un vrai problème à Vladimir Poutine.
Alors, si je comprends bien, le but, c'est un peu de l'isoler dans son coin. On lui donne accès à ses alliés, etc. Mais à l'extérieur de tout ça, il n'y aura plus nécessairement la liberté qu'il y avait. Il pourrait pas aller en territoire étranger de façon libre.
Un peu comme la stratégie économique qu'on a vue au début de la guerre, là.
C'est exactement ça. Pour schématiser, par exemple, la France organise en juin 2024 le 80e anniversaire du débarquement des troupes américaines, françaises, canadiennes et britanniques en Normandie. Et Emmanuel Macron a précisé qu'il voulait inviter tous les représentants des pays qui avaient participé à la Deuxième Guerre mondiale, dont Vladimir Poutine, fait partie de la Russie, l'Union soviétique ayant combattu. Si jamais le mandat restait actif, Vladimir Poutine ne pourrait pas se rendre à ce type d'invitation. Donc, il est isolé économiquement, même s'il est... tout ce qui est lié à la problématique des sanctions montre que la Russie arrive à s'en sortir malgré tout, malgré les sanctions. Mais cette mesure, qui est tout autant symbolique que diplomatique, elle a son importance. Ça place, une fois encore, Vladimir dans, à l'écart de la société occidentale et du reste de la société mondiale. On ne parle pas de l'OTAN, qui est une organisation diplomatique et militaire occidentale, mais qui n'a pas tous les pays. On ne parle pas de l'ONU, on parle de la CPI. C'est encore une structure qui vient ajouter une couche sur les sanctions qui touchent la Russie et Vladimir Poutine. Ce coup-là, personnellement, de mémoire, c'est la première fois qu'une structure vise autant le président en activité.
Dernièrement, il y a un rapport qui est sorti où est-ce que plusieurs personnes dans l'entourage de Vladimir Poutine sont décédées de façon douteuse. Est-ce qu'il y a des y a-t-il des enquêtes? Est-ce que justement là, la CPI est en train d'enquêter sur ces circonstances-là? Je me rappelle bien, là, c'est au-dessus de 70 personnes de l'entourage de Vladimir Poutine, là, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Là.
Alors, pour comprendre, il faut bien se rappeler de la structure politique russe sous Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est le président, il y a un vice-président, Medvedev. Mais Vladimir Poutine, depuis toujours, c'était déjà la même chose sous Boris Yeltsin pendant le début de la Russie, c'était déjà vrai avant en Union soviétique, il y a ce qu'on appelle les oligarques russes. Les oligarques, ce sont des chefs d'entreprise qui ont gagné énormément d'argent, et souvent très très rapidement, grâce à leur proximité avec Vladimir Poutine. Ils doivent leur fortune, ils doivent leur place, ils doivent tous leurs acquis. On peut parler d'Abramovitch qui possède un club de soccer en Angleterre, Chelsea. Il a dû le revendre depuis la guerre en Ukraine, mais ce sont des investissements à plusieurs centaines de millions, voire de milliards de dollars canadiens, de dollars US. Ces oligarques sont devenus tout-puissants grâce à Vladimir Poutine. Ils sont reliés au destin de Vladimir Poutine. Quand Vladimir Poutine lance l'opération spéciale et que des voix viennent contredire Vladimir Poutine, il est, alors le mot normal n'est pas le bon terme, mais il est attendu, selon la vision poutinienne de la chose, que les gens qu'il a fait manger et qu'il a fait grandir pendant des années ne viennent pas le critiquer. Dans ce cas-là, effectivement, il y a un nombre d'accidents qui se posent, qui est assez incroyable. Néanmoins, je ne pense pas que la CPI va se saisir de ces assassinats, parce qu'il faut avant toute chose les relier entre eux. C'est-à-dire que pour l'instant, là, vous avez parlé de 70, on a même un petit peu plus, parce qu'il y a ce qu'on appelle les oligarques de second niveau, vous savez, des oligarques régionaux qui ont des plus petites entreprises, qui à ce conséquent sont les plus petites. Il faut réussir à prouver que ces assassinats sont liés et que cette série d'assassinats est reliée au pouvoir russe. De vous à moi, c'est impossible à faire. C'est très très compliqué, si c'est impossible. Et donc, il est peu probable que la CPI puisse là émettre un mandat contre le pouvoir russe. Ça reste plus de l'environnement, de ce qui se passe autour de Vladimir Poutine, que d'une réelle action comme ce qui peut se passer en Ukraine aujourd'hui.
Pour terminer, j'aimerais savoir, avec ce mandat d'arrêt-là, dans l'éventualité où ce que la guerre prendrait fin bientôt, est-ce qu'on pourrait voir un changement de pouvoir en Russie pour aider le pays avec ce qui se passe alentour? Parce qu'avec un président qui peut pas se déplacer nulle part, ça risque de compliquer les choses.
Alors, il y a deux réponses et deux parties. Déjà, la première chose, c'est que peu importe ce qui se passe, on peut difficilement imaginer que dans les années à venir, Vladimir Poutine puisse se déplacer ailleurs qu'en Russie ou dans des territoires alliés. Je ne vois absolument pas aller en Europe et je ne vois absolument pas aller en Amérique du Nord. Mais effectivement, à plus long terme, la question pourrait se poser. La question de la suite de Vladimir Poutine, de la continuité du pouvoir, la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'il va se faire démettre par d'autres factions, que d'autres pouvoirs vont émerger. Ça, c'est une vision très occidentale, très nord-américaine. Si vous vous placez aujourd'hui en Russie, et de nombreux journalistes qui sont présents en Russie le disent, Vladimir Poutine est adulé, il est adoré dans son pays. Malgré les pertes, malgré les morts, malgré tout ce que vous voulez, Vladimir Poutine, il est adoré dans son pays. On parle d'à peu près moins de 10% de contestation. Bien sûr, c'est un régime autoritaire, bien sûr, il faut remettre tout ça en question, mais aujourd'hui, Vladimir Poutine n'est pas à deux doigts de se faire démettre de ses fonctions par qui que ce soit. L'armée est aux ordres, les oligarques sont aux ordres, et les factions politiques qui ne sont pas, qui n'est pas le parti du peuple de Vladimir Poutine, les formations politiques sont insignifiantes. Donc, quand vous avez des grandes manifestations au début de l'opération spéciale en Ukraine, à Moscou, moi j'ai eu la chance d'aller à Moscou avant le conflit et de visiter notamment la fameuse place à proximité du Kremlin où il y a toutes les manifestations. C'est une place qui est immense. Et au maximum, sur cette place pendant les contestations, pendant les grands moments de contestation, il y avait entre 10 et 15 000 personnes. Une manifestation entre 10 et 15 000 personnes sur un pays qui possède une population de 130 millions d'habitants, ce n'est rien. Si vous prenez les populations, les grèves en ce moment en France par rapport au régime de retraite, on est sur des grèves qui dépassent le million de personnes, des manifestations avec plus d'un million de personnes. Donc 10 à 15 000 personnes qui manifestent en Russie, c'est pour ainsi dire rien du tout. Donc aujourd'hui, Vladimir Poutine, il est en place, il a amendé la constitution qui va lui permettre de rester au pouvoir, et au pire du pire du pire, son vice-président, c'est, on va pas dire son meilleur ami, mais presque c'est son meilleur ami politique, c'est celui qui l'a remplacé à la présidence quand Vladimir Poutine avait fait deux mandats et qu'il ne pouvait pas se représenter à un troisième avant que la constitution soit amendée. Donc on a eu deux fois Vladimir Poutine, une fois Medvedev, deux fois Poutine, et maintenant il a le champ libre pour être toujours président à vie s'il le veut. Donc aujourd'hui, penser que Vladimir Poutine ne sera plus président dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, c'est juste de la politique fiction qui ne repose sur rien de solide.
D'accord. Merci beaucoup, Jordan Pleu, d'être venu nous éclairer.
Oui, ça a vraiment été un plaisir.
Au sujet de tout ce qui se passe. C'est des gros mots qui ne veulent pas nécessairement toujours dire beaucoup quand on n'y connaît pas. Alors, on vous remercie.
Avec plaisir.
On va se laisser sur une pause musicale avec Calamine et Cobaye sur les ondes de Chiz 94.3.
Cristallin, embrasse-moi, je serai redevable. Laisse-moi dans ton redelable. Smile.
OK, un Big Mac, c'est bon. Mais parler d'actualité avec Félix-Olivier Rochon-Côté sur les affamés, c'est encore meilleur.
Vous êtes sur les ondes de Schiste 94.3. Nathan, tu nous parles de...
T'es content, là. On vient de dire ton nom d'un gros cheese d'en face.
Non, mais c'est bizarre d'entendre mon nom au complet. Je l'entends à peu près au complet deux fois par année, puis c'est ça.
Ah, moi, je vais l'entendre au complet une fois. Ça va être à tes funérailles, genre.
Dommage.
Ouais, c'était bien down, excuse-moi.
Hey, MindGeek qui a été racheté par Ethical Capital Partners. MindGeek, ça dit peut-être pas grand-chose aux auditeurs... à première vue, mais c'est quoi MindGeek exactement?
D'après moi, vous êtes tous de grands clients de MindGeek.
Vous connaissez MindGeek, juste...
Mes petits tannants, c'est une nouvelle pour vous autres. MindGeek n'est plus une entreprise québécoise. MindGeek était la société mère de Pornhub. De Pornhub, qui est la célèbre plateforme plateforme web de pornographie. C'est la société, le fonds d'investissement privé, en fait, de Ethical Capital Partners qui a racheté notre cher cœur de la pornographie québécoise. C'est Ethical Capital Partners, c'est une compagnie, en fait, qui est dirigée, qui vient d'Ottawa, qui a été fondée à Ottawa, puis qui est dirigée par un entrepreneur en cannabis, le Rocco Maliambro, et l'avocat criminaliste Fadi Mansour, qui occupe respectivement le poste de président et d'associé directeur. Ce qui est drôle avec cette nouvelle-là, là, ça semble être une transaction des plus normales. En fait, là, le groupe Ethical Corporate Partner veut pousser l'entreprise vers le haut, essayer d'implémenter des valeurs plus humaines, selon eux. Mais ce qui est vraiment venu attirer mon attention, la raison pourquoi je vous en parle, c'est que je veux savoir si vous aussi, comme moi, vous avez écouté le documentaire Netflix sur Pornhub, les gars?
Je l'ai pas complété, mais je l'ai commencé. J'ai écouté une partie. Là.
T'as écouté une partie? Hein?
Ouais, mais l'histoire veut que je voulais l'écouter dans le train à mon retour parce que j'étais 6h30 de temps dans le train. Puis quand j'ai commencé le documentaire, je me suis senti vraiment pas à l'aise de regarder ça dans le train à l'entour du monde.
Je peux comprendre.
Ouais, c'est ça. Fait que je l'ai pas fini, mais je l'ai commencé.
Il y a rien de graphique dans le documentaire. Tu sais, il y a pas de sexualité non, dans le documentaire, mais il y a des bruits ouais. De sexualité. Il y a des gens dénudés. Je veux dire, c'est peut-être pas l'écouter au travail ou l'écouter dans des lieux publics, c'est peut-être pas le meilleur mm-hmm. moment. Ce qui est venu vraiment me toucher avec ça, c'est que ce documentaire-là sur Pornhub vient, en fait, on va accompagner certaines pornstars, certaines actrices de l'industrie de la pornographie vedettes dans leur journée, dans leur quotidien. On apprend des choses sur eux, un peu comme Vogue, là, vous savez, les interviews Vogue,
ouais,
là, ils rentrent chez le monde. Puis on se rend compte, en fait, que c'est des gens très normaux et des gens qui font une profession des plus banales dans le métier du divertissement. Il y a certains changements quand même majeurs.
Mais je veux dire, il y en a une, elle compare à YouTube, puis je pense que c'est très vrai. Là, au final, là, tu portes ta caméra, tu fais quelque
ouais.
chose, tu le mets sur le web, il y a des gens qui le consomment, il y a des gens qui ne consomment pas au final.
C'est très vrai, mais je pense qu'il y a beaucoup de ben en tout cas, ça vient vraiment dans mon avis, là, mais je pense qu'il y a beaucoup de psychologie dans la pornographie. Je pense qu'il y a des surtout dans ce qui est OnlyFans, il y a beaucoup de ces femmes-là qui, au final, leur principal travail avant de produire du contenu pornographique, c'est de dealer avec des hommes qui veulent payer pour voir des photos.
Mais les gens qui fonctionnent le mieux sur OnlyFans, c'est des gens qui sont connus par rapport justement à d'autres médias,
oui.
Puis que les gens veulent les voir, puis ils se créent une plateforme.
Ça vient jouer sur notre espèce de petit désir malsain voyeur, là, on y est fans. Ça, c'est sûr et certain. On a toute une collègue ou une ancienne, non pas une collègue, là, mais une ancienne personne qu'on est allé à l'école avec, là, ou tu sais, des gens comme ça qui startent on y est fans. Puis c'est sûr que ça vient piquer la curiosité. C'est sûr.
Mais c'est aussi
certain.
Les personnalités publiques, là, quand t'es déjà sur un piédestal, puis là, les gens, ils te voient avec une certaine des
ouais.
étoiles dans les yeux, puis là t'annonces ça, il y a certaines personnes qui vont avoir le désir d'aller voir plus loin, puis c'est ces comptes-là qui fonctionnent le mieux là sur la plateforme.
Absolument. Mon problème avec ce documentaire-là, là, c'est là où ça vient normaliser tout ce qui est métier du divertissement pornographique. Ben je me dis, ok, on a normalisé ça, là, c'est correct, là c'est normal, il y a plus de tabou, là, mais au final c'était peut-être mieux quand il y avait des tabous, vous pensez pas? C'est peut-être pas une si bonne chose que ça, là, de normaliser la sexualité tant que ça.
Moi, je le vois pas comme ça. Je crois que le côté...
Mais c'est une question qu'il faut se poser.
Ça devrait pas être tabou. C'est pas selon moi, quelqu'un qui travaille dans le domaine, c'est pas tabou, c'est pas nécessairement un problème. Le côté, par exemple, je trouve qu'il est peut-être un peu moins plaisant, c'est du côté où ce qu'on encourage les gens, on leur dit c'est une bonne
façon
de faire.
Mais si on normalise, on l'encourage.
Oui, mais il y a une différence en dire il y a des gens qui le font puis c'est correct, puis mm-hmm. dire ah oh, c'est une très bonne façon de gagner sa vie puis désormais tout le monde peut le faire, il suffit d'avoir accès aux plateformes et d'être consistant, etc.
Je veux pas accuser Netflix de propagande pour l'industrie de la pornographie, mais dans les sous-textes du documentaire, en tout cas moi j'ai vraiment senti en plus de vouloir normaliser cette industrie-là, voulait surtout encourager. Je pense pas que le but du documentaire soit d'encourager les gens à faire de la pornographie, mais il y a quand même ce sous-texte-là un peu malsain, un peu malaisant pour moi, qui m'a empêché de le finir, ce documentaire-là, où on vient tellement normaliser, on vient tellement dire genre regardez ces gens-là, c'est correct ce qu'ils font, qu'au final, ben ouais, ça devient un choix de carrière encouragé pour n'importe qui, tu sais, puis pas sûr que c'est une bonne chose. Je suis pas convaincu que c'est une mauvaise chose, mais je pense que c'est une question importante qu'il faut se poser dans notre société actuelle.
Je pense pas que c'est pas correct. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on vient vendre ça comme une façon de gagner sa vie qui est viable. La réalité, c'est que c'est viable pour un petit pourcentage de personnes sur les plateformes.
Ça, c'est un débat qu'on peut mener alors aussi.
Pour les autres, de créer du contenu, mais est-ce qu'on incite les gens à se lancer dans un domaine qui peut pas fonctionner pour tout le monde? C'est ça, moi, qui je trouve qui est plus épeurant, là.
Ouais, mais ça, on le fait avec l'art, on le fait avec plein d'autres domaines. Il y a des diplômes, je peux te nommer 20 diplômes que tu peux avoir à l'université qui ne te mènent pas vers une job fixe, un domaine fixe qui ne t'assure pas un revenu, puis ça ne discrédite pas ces diplômes-là quand même, ça ne discrédite pas ces professions-là quand même. On est des artistes, on travaille à radio, les gars, là. On est dans les métiers les moins stables où on peut être le plus pauvre facilement, là.
Oui, je suis entièrement d'accord sur ça, mais c'est parce que je suis pas sûr que c'est la même facilité, tu comprends? Radio, faut que tu ailles chercher un peu plus loin. Pour mettre du contenu en ligne de ton corps.
Tu peux juste ouvrir ton téléphone.
Tu prends ton téléphone, tu prends des photos, c'est en ligne, là, ça prend 30 secondes. Je pense pas que c'est le même investissement, puis je crois pas que c'est la même réflexion qui est faite. Faire de la radio, on a choisi d'aller faire un cours, on s'est investi là-dedans, mm-hmm. puis tout ça. Tandis que sur ça, c'est ça va arrondir les mois. Ça va me faire une couple de scènes de plus dans mes poches. Je vais faire ça en même temps. Puis pour certains, ça devient...
C'est pas une vocation, t'es en train de dire. J'ai pas l'impression que c'est une vocation aussi. Je suis relativement d'accord avec toi. Mais le problème dans tout ça, pis t'as raison, c'est... En tout cas, moi, je ressens un profond malaise à glorifier l'industrie de la pornographie. Je suis tout
mais
à fait d'accord.
Mais on a normalisé le tout. La série Euphoria, il y a c'est une actrice du X aussi, puis elle est dans la série. Là,
mais
puis elle fait un bon travail dans la série. Elle a été reconnue.
Effectivement. C'est une bonne performance qu'elle a livrée, d'ailleurs. C'est une actrice tout à fait respectable. Mais le problème, ce que je voudrais finir à dire, c'est que moi, je ressens un profond malaise quand on en vient à glorifier l'industrie de la pornographie ou toutes sortes d'industries sexuelles, parce que veux pas, c'est un contenu qui n'équivaut pas au même standard qu'un contenu artistique ou un contenu
mais
informatif.
Mais c'est parce qu'on le voit comme ça, mais dans plusieurs années, ça sera peut-être plus le cas.
Ça sera peut-être plus le cas. Puis je changerai mon discours. Je suis tout à fait ouvert à changer mon opinion. Mais pour l'instant, je pense que normaliser l'industrie du sexe, normaliser la sexualité, on l'a déjà fait. C'est quelque chose qu'on a déjà réussi à faire.
Parce que dans les écoles, on n'est même pas capable de l'enseigner à tout le monde. On n'est même pas capable de l'enseigner ouvertement sans qu'il y ait des gens qui se fâchent dans les écoles. On peut même pas.
Ah, mais c'est qui se fâche?
Les parents, des gens. Je veux dire,
les parents de ces parents-là. Je veux dire, la génération jeune a normalisé la sexualité, selon moi, quasiment trop. On a trop normalisé cette sexualité-là au point où il y a des filles qui rêvent d'être porn star dans la vie, puis quoi que c'est un
mais je veux
c'est
dire
un
c'est
comme
un métier
tout autre.
C'est exactement si c'est ça qu'ils veulent, je verrais pas pourquoi
c'est
les enfants
veulent, mais moi je pense par exemple mon avis personnel c'est que des gens aient ces rêves-là, ça montre pourcentage de gens qui aient ces rêves-là, ça montre une certaine problématique dans la façon dont notre société évolue. Puis je veux finir ça là-dessus, je veux pas me mettre plus dans
la
merde que ça.
De mon côté, il y a une ligne fine entre dire que c'est normal puis que c'est correct que des gens le font et encourager d'autres à s'engager dans le domaine en leur disant que c'est le futur ou une bonne façon de faire de l'argent. J'ai l'impression qu'il y a une petite ligne à ce niveau-là entre c'est normal puis c'est correct qu'il y a des gens qui le font puis encourager des jeunes filles à se joindre dans le domaine en leur disant que c'est un excellent domaine, etc. Là, alors C'est là que moi je pense que caler la ligne. On va se laisser tout sur une petite pause publicitaire sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Droit de parole, c'est l'émission de l'Association des étudiants en droit de l'Université Laval, dans laquelle on reçoit des comités de notre association étudiante, des professionnels et des membres de notre faculté afin de démystifier les divers domaines du monde juridique. Tu as toujours voulu savoir si les études en droit étaient dignes de Legally Blonde? Tu te demandes si les avocats ont vraiment une carrière comme celle que tu vois dans Suits? Tu es simplement intéressé par l'actualité et le domaine juridique? Tu es donc invité à la barre pour écouter Droit de parole tous les jeudis de 13h à 14h sur les ondes de Chiz 94.3.
Les matins sont difficiles. Tu dépends de la caféine. Tu t'es même fait brancher un espresso par intraveineuse. Chiz a la solution pour toi. Les matins de semaine, de 8h à 9h30, l'équipe de l'allongée t'aide à commencer la journée du bon pied. Informations, divertissement, météo et circulation, c'est le petit déjeuner parfait. L'allongée, seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Saviez-vous que le dessert préféré de Félix Olivier, c'est le pudding chômeur? On repassera pour l'originalité, hein?
On se retrouve.
On vient d'apprendre un petit secret, mon ami.
Un secret, puis je me fais ramasser en plus.
T'es un de mes amis les plus chers, puis je savais même pas que ton dessert préféré, c'est le pudding chômeur.
Mais c'est parce que j'en mange.
Je pensais que c'était ton activité préférée, ça, être chômeur.
Pourquoi je me fais ramasser par le jingle partout? Y en a-tu d'autres, là, avant? On va continuer après?
Je sais pas. Écoute, on peut continuer sur les chômeurs, si tu veux, parce qu'il y a plusieurs gens aux États-Unis qui sont rendus sur le chômage, qui, malheureusement, donc on a appris la semaine dernière que une des banques les plus importantes dans le milieu technologique en Californie, de la Silicon Valley, donc la Silicon Valley Bank, qui a fait faillite.
Faillite?
Oui, donc qui doit fermer ses portes. En fait, la
une
raison...
Une banque qui fait faillite, c'est, excuse-moi, je te coupe, là, mais une banque qui fait faillite, en gros, il arrive quoi quand une banque fait faillite?
En fait, c'est que tu perds tout. Là. Tu perds tes placements.
Mais pour ses clients, ouais. Toi, admettons, moi, là, que j'ai de l'argent dans cette banque-là, admettons, là, j'avais un compte dans cette banque-là, j'avais de l'argent. Si... Pour mettre ça encore plus concret, là, si la Banque nationale, mettons, fait faillite, il se passe quoi avec mon 27 piastres?
T'es protégé par l'assurance dépôt, la SADC, jusqu'à 100 000 $.
OK.
Et aussi,
fait que
là,
les riches j'aurais pas un peu de problème.
Donc, t'es protégé. Il y a une assurance pour les dépôts. Là, donc, mais aux États-Unis, je ne sais pas si ça fonctionne de cette façon-là, mais c'est un climat qui se rapproche drôlement de 2008 parce que la Silicon Valley Bank est une des plus grosses banques aux États-Unis en termes d'investissement pour les startups, pour les entreprises qui commencent. On sait, la Silicon Valley, c'est l'épicentre de la technologie. Justement, cette fermeture-là a créé un émoi de panique au niveau là de la Banque centrale fédérale aux États-Unis. Donc, la Banque fédérale, la raison de leur faillite, c'est qu'ils ont manqué de liquidité, ce qui veut dire qu'il y a trop de gens qui ont décidé de retirer leur argent. C'est un petit peu comme si tu vas au casino, puis t'es écœuré de jouer, puis tout le monde décide de
mais
cacher.
Mais ça, c'est pas quand le monde a peur, d'habitude.
Même j'ai l'impression, là, de la façon que tu me décris, ça sonne un peu comme un pyramid scheme, là, l'histoire. Il y a des gens qui investissent, puis là, à un moment donné, tout le monde, les gens au-dessus retirent, puis les gens en bas, ils auront pas l'argent, mais c'est juste que c'est pas exactement comme
mais
ça. Mais c'est similaire.
On peut rentrer dans les détails, si tu veux. Ouais, est-ce que comment une banque fonctionne, c'est qu'une banque va utiliser l'argent que tu déposes pour financer les autres.
Mais c'est ça.
Donc, c'est comme ça qu'une banque fait son argent. Donc, l'intérêt qu'elle va faire sur ton compte bancaire et l'intérêt qu'elle va faire sur le prêt, c'est avec ça qu'elle va te rembourser l'argent qu'elle t'a emprunté dans ton compte de banque. Donc, voyant ça, pour éviter cette crise, la banque et Joe Biden, donc la Fed et Joe Biden, ont décidé de mettre en place un projet de soutien de 2 trilliards de dollars. Pour justement venir aider les banques à justement ne pas manquer de liquidité pour éviter là une espèce de chute à la Lehman Brothers en 2008 qui a été drastique pour la crise économique. Qu'est-ce que cela vient faire? Dernièrement, on parle beaucoup d'inflation, on parle beaucoup de taux d'intérêt, on parle beaucoup des taux d'intérêt qui manquent. Hey, ma maison, ça me coûte plus cher qu'il y a 6 mois. Et il y a 2 semaines, M. Powell, qui est en fait le directeur de la Federal Bank, donc de la Banque fédérale américaine, avait mentionné « Hey, les amis, on va augmenter notre taux directeur entre 0,25 et 0,50 points. » Chose qui est à la norme. Et je veux dire, le Canada se fie beaucoup sur qu'est-ce que la Fed fait. Et mais au mois de mars, la Banque canadienne a décidé de dire « Moi, je n'augmente pas mes taux. »
Mais... Fait qu'on n'a pas suivi là-dessus.
Non, exactement. Mais pourquoi je veux vous en parler? C'est parce que mercredi prochain, messieurs, en après-midi, ayez votre pop-corn, manquez vos cours à l'école, quittez votre job, allez à la maison puis écoutez le discours de M. Powell parce qu'il va annoncer quelque chose qui va vous chambouler, qui va venir chambouler l'épicentre de l'économie présentement et le marché boursier. Je vous explique pourquoi. On est dans une place où est-ce que l'inflation continue d'augmenter. On a augmenté de 0,4% au mois de février aux États-Unis. Ça continue d'augmenter drastiquement. Et M. Powell, qu'est-ce qu'il a décidé de faire avec sa grande équipe de scientifiques, financiers, a décidé de dire, hey, moi, je m'en vais à l'encontre de tout le monde ici, puis je décide de baisser les taux.
OK.
Fait que là, tu vas dire, hey, mon prêt hypothécaire va me coûter moins cher, je vais avoir plus de pouvoir d'achat, je vais pouvoir enfin m'acheter mon Ford F-150.
Mais là, j'ai l'impression que tu me dis ça de même puis qu'il y a un petit problème avec le fait qu'il ait fait ça.
Et voilà, exactement.
Ouais,
donc, si tu donnes plus de pouvoir d'achat à un consommateur, qu'est-ce que le consommateur va faire?
Mais il va acheter plus.
Si tu achètes plus, qu'est-ce que ça fait? L'inflation monte.
Effectivement.
Ce qui veut dire qu'on vient aucunement venir régler le problème de l'inflation. Puis, qu'est-ce qui est épeurant là-dedans, c'est au niveau du marché boursier. Le marché boursier va excessivement diminuer selon les différents économistes, selon les différents gestionnaires de portefeuille. Le marché boursier va être en tendance baissante, ce qui veut dire que vous risquez de perdre de l'argent mercredi.
Fait que lui, il a vraiment mis un band-aid sur un coup de couteau, là.
Ouais, exactement. Tu sais, c'est venir.
En fait, ça va tenir un petit 5 minutes, puis après, on verra.
Il a dit, je vais venir mettre un plaster sur une brûlure. T'sais.
OK, ouais, c'est
littéralement ça qu'il a fait. Puis pourquoi c'est problématique, puis pourquoi c'est intéressant en même temps, c'est parce que, en tant qu'investisseur, si vous êtes monsieur, madame, tout le monde à la maison, c'est le temps d'investir local. François Legault a parlé du panier bleu. Tu sais, pendant la pandémie, le panier bleu, tu vois des affiches partout dans tous les magasins.
Oui, c'est le site qui regroupe toutes les compagnies
québécoises. C'est le temps d'investir local, puis de venir investir au Canada, parce que c'est au Canada que ça va être payant. Parce que premièrement, les impacts que cette baisse-là va avoir, c'est que le dollar US va énormément baisser dans les prochains mois. Donc, si le dollar US baisse, le pouvoir d'achat canadien augmente, ce qui veut dire que les actions canadiennes aussi vont augmenter. Donc, au bout du compte, si toi, dans ton portefeuille, tu as plusieurs actions de compagnies canadiennes, tu vas finir plus riche. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, il y a un oligopole au niveau des banques au Canada, ce qui veut dire qu'on a seulement un certain nombre de grosses banques comparées aux États-Unis, ce qui rend la situation financière canadienne beaucoup plus sécuritaire. Donc, toi, à la maison, c'est le temps d'appeler ton conseiller et de dire « Hey, j'ai un portefeuille international. »
Mais tu dis que c'est plus stable parce qu'il y a moins d'établissements, mais je suis pas sûr parce que s'il y en a une qui chute, il n'y a pas plus de monde qui chute avec?
Non, pas nécessairement, parce que je peux te garantir, par exemple, la Banque Royale du Canada a beaucoup trop de possessions, donc a beaucoup trop d'assets pour faire faillite. Ce qui veut dire qu'ils vont vendre des immeubles, ils vont vendre des prêts, ils vont vendre des dividendes pour justement ne pas être en mesure de faire faillite. Et plusieurs banques canadiennes sont dans cette posture parce que c'est un oligopole. Ce qui veut dire qu'on a quelques banques. On parle du Big Five, donc on parle de BMO, Banque Nationale, Banque Royale, TD, CIBC, qui sont en mesure de justement, et la banque que ça, qui sont en mesure justement de venir donner une petite satisfaction aux Canadiens qui viennent investir. Donc, c'est le temps d'investir local, c'est le temps aussi de s'attacher serré, parce que ça risque de brasser dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans le prochain trimestre. Mais c'est important d'investir au Canada parce que c'est avec ça que vous allez avoir un meilleur portefeuille prochainement.
On se trouve un club vidéo, Félix.
Oh,
d'après moi, c'est le bon move. D'après moi, c'est là que l'argent se trouve.
Je suis pas sûr. Mais peut-être avec Netflix qui va moins bien. On verra. Mais en tout cas, du côté du Québec, on se tourne vers l'éolien. Le gouvernement Legault, il a confirmé jeudi, fait que hier dans le fond, son intention de lancer un nouvel appel d'offres d'Hydro-Québec pour un bloc de 1500 MWh d'énergie éolienne. Ça serait le deuxième plus gros projet d'énergie éolienne de la province.
Je veux pas te mettre dans le coin, là, mais sais-tu, ça représente quoi, 1500 MWh? Parce que là, tu me dis ça, ça me dit absolument rien.
Dans le fond, là, un ménage au Québec en 2019 consommait en moyenne 17,6 MWh. Alors, avec ces éoliennes-là, on pourrait fournir environ 85 ménages, 85 personnes.
Ouais, pas pire.
Fait que c'est quand même déjà pas pire. Mais ce que moi, je trouve qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on nous dit, on nous donne des chiffres en électricité, mais on nous dit pas nécessairement combien d'éoliennes ça prend pour faire ça. J'ai cherché un peu, puis une éolienne va produire un minimum de 5000 kWh et un maximum de 20 000 kWh par année. Fait qu'on va imaginer, là, c'est une production parfaite. Il y a toujours le vent optimal, les éoliennes tonnent toujours bien, il y a jamais une journée où il y a pas de vent.
Le paradis sur Terre.
C'est
ouais.
ça, là, ça serait vraiment les conditions parfaites pour ça. Ça prendrait au moins 75 éoliennes pour produire 1500 MWh. Alors, ça serait vraiment 75 éoliennes, ça sonne...
C'est quasiment une éolienne pour une maison.
Dans le fond, c'est pratiquement ça. Que 75 éoliennes, peut-être que ça sonne pas beaucoup, parce que c'est pas simple, tout ça, mais je vous rappelle qu'une éolienne, là, c'est immense. Là. Une éolienne, on parle, là, c'est de 120 à 155 mètres de haut. De haut.
As-tu déjà vu une éolienne de proche?
Oui, j'ai déjà vu une éolienne de proche.
Il y en a beaucoup en Gaspésie, honnêtement.
Oui, c'est vrai. Puis c'est parce que, tu sais, quand t'es à 132, mettons, là, puis là, tu vois des
camions qui
sont loin.
T'as-tu déjà vu
les camions qu'ils amènent? C'est tellement impressionnant.
Tu te rends compte à quel point c'est immense, là, à côté de.
Ça, c'est intéressant de voir aussi que le gouvernement, je vais revenir au niveau finance, messieurs, là. Tu sais, on se rend compte que c'est vraiment intéressant que le gouvernement se retourne vers les énergies renouvelables parce qu'au bout du compte, à long terme, c'est qu'est-ce qui va être le plus rentable. On sait qu'actuellement, avec la crise énergétique, qu'est-ce qui a repris du vent, tu sais, c'est le charbon, c'est aussi les centrales nucléaires. Mais au bout du compte, on sait qu'on va revenir à un état normal où est-ce que la géothermie, les panneaux solaires et au niveau de l'énergie éolienne, c'est vraiment eux qui vont être prédominantes. On est chanceux au Québec, on a plusieurs, on n'est pas non plus en Saskatchewan, mais on a quand même plusieurs plaines qui justement sont propices à avoir du vent. Puis surtout, on a aussi plusieurs entreprises, dont une en particulier qui s'appelle Marmen, dans le coin de Trois-Rivières, qui construisent des éoliennes. Donc, c'est de l'argent qui reste au Québec. Donc, c'est comme je dis, je sais pas, je m'avance encore, là, je sais pas avec qui là, le gouvernement veut faire affaire ses projets. Faut dire aussi que le projet n'a pas encore passé le stade des études environnementales. Mais si Marmen est en mesure d'avoir une partie de ce projet-là, ça va être très, très intéressant pour l'économie de la Mauricie et l'économie de la province.
Ben, on est dans un changement d'air au côté énergétique au Québec, puis de la façon que la province parle, elle veut être des pionniers du côté de l'énergie renouvelable. Puis tu sais, avec les études, puis tout ça, là, on parle 2026-2027, les problèmes d'électricité. Alors, faut falloir agir. Puis là, on parle, il y a beaucoup de discussions avec le fait qu'on a Fitzgibbon qui est le super ministre à la tête de ça. Puis là, on veut inclure la population parce qu'on veut les mettre au courant de qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui va arriver. On veut pas laisser ça sur un parti, puis tout ça, fait que ça fait beaucoup discuté dans les médias. Puis Pierre Fitzgibbon il a fini aussi par dire que le Québec regarderait aussi du côté solaire, que ça allait être à surveiller.
C'est peut-être un peu moins intéressant. Ben, je connais pas ça du tout, là, mais j'imagine que vu avec les hivers puis notre temps de noirceur un peu plus élevé que les autres endroits dans le monde, j'imagine que c'est moins intéressant.
Mais
tu sais,
du soleil, t'en as pas mal à tous les jours.
Ouais, c'est
du
sûr.
Vent,
c'est plus stable que
le Groenland. On n'est pas au Groenland, on n'est pas non plus en Norvège, on n'est pas en Finlande. C'est sûr que par contre, la structure des sols fait en sorte que la géothermie est très, très intéressante actuellement.
Ouais, c'est sûr.
Tu sais, on n'est pas en Australie non plus. Tu sais, j'ai des chums en ce moment, j'ai des amis que leur travail est d'installer des panneaux solaires sur des maisons. Et le résultat est quand même assez hot, là. J'ai vu une publication, là, dernièrement, où est-ce que les panneaux solaires installés font en sorte que le client est, en fait, va être en mesure d'être responsable énergétiquement à 90%, ce qui veut dire que le soleil va...
Mais ce qu'il faut pas oublier, là, c'est que c'est des gros investissements. C'est de l'entretien aussi qui va être lié à tout ça. Le veut pas, là, une éolienne, puis un panneau solaire, là,
faut que quelqu'un fasse une guinée là-dessus de temps en temps. Là.
Ben, plus le panneau solaire que l'éolienne, là, parce que passer une guinée sur l'éolienne, ça va être long en tabarouette. Mais tu sais, il y a des gens qui vont travailler sur ces choses-là, fait que ça va créer de l'emploi aussi. On se rappelle qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Fait que tu sais, c'est tout est un cercle vicieux, puis c'est...
C'est dramatique. Tout est un cercle vicieux.
Ben, c'est vrai que quand tu regardes vraiment, pas mal tout est un cercle au final.
Ben oui.
Puis tout ça pour dire qu'on se tourne vers des énergies renouvelables, puis je pense que c'est une bonne chose du côté écologique, puis tout ça, mais est-ce que ça va amener d'autres problèmes? Il y a juste le temps qu'il va nous le dire, mais ça va être intéressant de suivre le tout. On va se laisser sur une petite pause musicale sur les ondes de Schiste 94.3 avec Iman et Bientôt.
Je veux faire du cash, bientôt je veux faire du sens, hey. Je veux faire du cash, bientôt je veux faire du sens, hey. Je veux faire du cash, bientôt je fais du sens. Hey, je veux faire du cash, bientôt je fais du sens. Hey, trap, 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 trap. Wait on, hey. Quand t'en faisais ça comme si c'était un jeu sur vidéo, hey. Jamais connu, ben, ben, grand chose d'autre que le nom de la plaque. Hey, si dans le fond, un matin fait chaud dans le fond du black. Je veux faire du cash, bientôt je fais du sens. Hey, hey. I don't give a shit de propos de danser. Hey, I don't give a damn propos de penser. On my way. Qu'est-ce que je veux? Hey, c'est quel blé? Dans le temps, je marche 3-4 heures par jour. Aujourd'hui, je suis tombé en amour. Hey, you step it pour le mieux, ok. Hey, ah, ok, alright, ok. Je veux faire du cash, bientôt je fais du sens. Hey, je veux faire du cash, bientôt je fais du sens. Hey, je veux faire du cash, bientôt je fais du sens. Hey, je veux faire du cash, bientôt je fais du sens. Hey, catch my late night en train de lire un livre dans mon cours. Hey, catch my late night en train de lire un livre dans le cours. Hey, catch my late night en train de lire un livre dans le cours. Yeah, catch my late night en train de lire un livre dans le cours. Et tu dis, tous les jours j'essaie d'apprendre quelque chose de plus. Plus en plus de l'art du nerd assis en avant du bus. Ça file pour le mieux, ok. Hey, ok, alright, ok. Je veux faire du cash, bientôt je fais du sens. Hey, je veux faire du cash, bientôt je fais du sens. Hey, je veux faire du cash, bientôt je fais du sens. Hey, je veux faire du cash, bientôt je fais du sens. Hey,
yo, on fait nos bills comme l'écrivain. Les hypothèques sont longues comme des méridiens. J'ai déjà fait du mal, maintenant je veux faire du bien. J'suis pas strap, j'ai tout à foutre, j'ai beaucoup à perdre. Hey, des fuck I give all day, hey day. Oublie ton mauvais plan, on veut des bonnes idées. Hey, pense-y deux minutes que tu veux propager. Y'a plus que juste ta vie que tu peux endommager. Entre en prison, sors de la prison, retourne en prison d'air. Or fais ton code, retourne en prison, t'es sois fils ton terre. Pense à ton épouse, on fait nos missions. Hey, la porte est grande ouverte, te souviens-tu du chemin de la maison, hey.
Je veux faire du cash, bientôt je fais du sens, hey. Je veux faire du cash, bientôt je fais du sens, hey. Je veux faire du cash, bientôt je fais du sens, hey. Je veux faire du cash, bientôt je fais du sens. Je veux faire du cash, bientôt je fais du sens, hey. Je veux faire du cash, bientôt je fais du sens, hey. Je veux faire du cash, bientôt je fais du sens, hey. Je veux faire du cash, bientôt je fais du sens.
L'être humain n'est pas marché pour parler bien, bien, parce qu'on laisse mourir 600 enfants à la seconde de la faim, on mange comme des cochons. On est tous des meurtriers, puis je veux plus entendre parler de cette question-là.
OK, un Big Mac, c'est bon. Mais parler d'actualité avec Félix-Olivier Rochon-Côté sur Les Affamés, c'est encore meilleur.
Nathan, t'as regardé la cérémonie des Oscars, puis t'as fait une déclaration. Les films, ils ont de plus en plus de budget, mais ils ont l'air de plus en plus laids.
Oui, c'est effectivement, et je suis prêt à me battre pour mes propos.
Mais je pense qu'on a on n'a pas besoin de se battre vraiment. Là. On a juste à regarder qui a raflé le plus d'Oscars, les deux films qui en ont raflé le plus.
Everything, Everywhere, All at Once et All Quiet on the Western Front.
Ensemble, ont totalisé des budgets de moins de 50 millions de dollars, donc 20 millions pour À l'Ouest, rien de nouveau. Et entre 14,3 millions et 25 millions pour justement le Everything Everywhere All at Once.
Ils sont deux excellents films. Hein. Rendu long, on peut en parler différemment. J'ai un amour profond pour All Quiet on the Western Front. Je pense que c'est un amour qui est partagé autour de la table ici. Mais ça n'enlève absolument rien à Everything Everywhere All at Once, qui a gagné plusieurs prix, qui a raflé le prix même du meilleur film et qui a donc été le héros de cette soirée de dimanche. Ce que j'ai remarqué, par contre, c'est qu'on a vu beaucoup d'autres choses. On a vu Wakanda Forever, Avatar 2, par exemple. On a vu Ring of Power qui a fait ses apparitions. Puis, en regardant des scènes de Ring of Power, qui est la série qui a coûté 1 milliard de dollars.
Un milliard.
Oui, plus qu'un milliard, même 1,2, je pense.
C'est de l'argent, là. C'est de l'argent à maudit pour faire quelque chose qui est pas si beau que ça.
Mais écoute, c'est là où... Ça fait mal un peu, parce que tu regardes cette série-là à 1,2 milliard de dollars, qui est basée sur le Silmarillion, en fait, le deuxième âge du Seigneur des Anneaux. Et puis, tu regardes Le Seigneur des Anneaux, en fait, la trilogie de films de Peter Jackson, qui est sortie entre 2000 et 2006, je pense, de mémoire, le premier 2002, 2004, 2006. Puis, ces films-là, ils ont été produits il y a de cela 20 ans, et sont magnifiques, sont magnifiquement plus beaux que Ring of Power.
Mais moi, j'ai une question par rapport à tout ça. Là. Tu dis, les films sont de moins en moins
beaux.
C'est
2001, 2002, 2003.
T'étais une année off partout.
J'étais une année off partout, j'ai vraiment pas été bon.
Mais moi, ce que je m'en ai à dire, dans le fond, c'est que j'ai l'impression, de nos jours, on a de plus en plus accès à la technologie pour modifier un film et tout ça. Fait que j'ai l'impression que quand on filme le film, on fait moins attention à tout ça.
Exactement.
Parce qu'on se dit, je vais tout pouvoir modifier après, mais ça marche pas tout le temps
non,
comme
mais
ça.
Mais tu lis dans mon esprit, toi, mon beau.
Mais j'écoutais une entrevue de Brendan Fraser, qui a remporté le score du meilleur acteur. Il rappelait en fait une scène de pourquoi il avait quitté le milieu du cinéma. Où est-ce qu'il était assis dans une toilette, dans une toilette publique. Ouais. Et il se faisait renverser, dans le fond, par un ours. Un ours frappait la toilette publique. Puis,
c'est une toilette portative.
Ouais,
c'est
une toilette portative. Puis il s'est dit, ça vaut-tu vraiment la peine? Il s'est fait renverser ce galerie dessus. Puis c'est pas ça le point. Mais il disait, c'est rendu que lorsque j'ai commencé à faire du cinéma avec La Momie, on créait l'imaginaire, on créait des émotions aux gens. On était en mesure de faire l'impossible. On était en mesure de faire le possible avec l'impossible. Mm-hmm. Qu'est-ce qui rendait l'art aussi incroyable?
C'est ce qui rend l'art
or. Mais aujourd'hui, la technologie est tellement avancée que faire qu'est-ce que La Momie a fait à la fin des années 90, c'est rendu un petit mardi pour nos amis à brasserie chez Scott.
J'aime tellement mieux les effets pratiques que les effets montants. Parce que regarde le film.
On aime les effets pratiques. On aime les effets pratiques entre 95 puis 2005.
Non, mais 2010 mettons Body
peut-être.
Elf,
parce qu'avant ça,
là,
c'était pas si beau que ça. Là. On capotera pas
Body
non plus.
Elf,
là.
C'est des effets pratiques. Là. C'est... tout, il y a pas de montage, c'est vraiment positionné par rapport à la caméra, puis le film, ça fonctionne très
bien.
C'est
bien effets spéciaux, tu sais, il y a rien fait à l'ordinateur. Vous me parlez de ça, surtout toi Charles, tu me parles de ça, puis ça me rappelle, connais-tu Ian McKellen?
Oui.
C'est l'acteur qui jouait Gandalf justement
oui,
dans
oui.
Le Seigneur des Anneaux,
qui joue aussi dans Harry Potter aussi.
Oui, oui, c'est un peu quand vous pensez à un grand sage, c'est un peu l'acteur qui est fait tout. Puis
c'est un
ben,
peu comme
vrai.
Morgan Freeman quand tu as besoin d'avoir une deep voice.
Exact, exactement. Exact. Ou Christopher Lee quand t'as besoin de quelqu'un qui se sent supérieur. Mais, Ian McKellen, il y a une partie, vous pouvez le trouver sur Internet, là, on le fera partager s'il faut. Mais Ian McKellen, où il s'assied, est dans une grande chambre verte, en fait, là, c'est là où les films actuels sont tournés, c'est pendant le tournage de Ring of Power d'ailleurs, où il s'assied dans une grande chambre verte, dans un studio vert, puis où il pleure. Il fait simplement pleurer, puis il parle à Peter Jackson, puis il dit, écoute, je peux pas me plaindre parce que je fais un métier dont les gens rêvent, que les gens rêvent de faire. Mais Peter, si ça continue comme ça, le cinéma, moi, j'en ferai plus. Là. Ouais, mais tu sais, j'en ferai plus. C'est pas pour ça que je fais ça.
C'est fou à penser. Tu sais, on va revenir un petit peu plus loin à l'histoire de Pi qui a été tournée dans une piscine. Hors terre.
Oui, ça, c'était complètement fou.
Qui était tourné dans une piscine hors terre. Je me disais à quel point, tu sais, c'est rendu. Moi, j'aurais aimé ça que le gars soit sur son radeau en plein milieu de l'océan Pacifique, honnêtement. Avec le
C'est toujours mieux dans une piscine hors terre que sur un green screen avec rien partout à l'entour.
Ouais, ça aurait été vraiment plus compliqué. Ça, c'est un cas plus à part, je pense. Mais, tu sais, quand on regarde ça, là, Ring of Power, là, la sortie du Seigneur des Anneaux, qui est la série, parce que je pense que c'est le meilleur comparatif, la série qui est sortie cette année du Seigneur des Anneaux a coûté 1,2 milliard quand le Seigneur des Anneaux, la trilogie, les trois films ensemble ont coûté 200 millions en 2002. Ils sont plus beaux, plus appréciés. Je pense pas que ça soit dû aux acteurs tant que ça. Je pense que c'est principalement dû au fait, aux performances des acteurs. Je pense que c'est principalement dû au fait qu'on a perdu cette ambiance-là, cette espèce de visuel-là. Quand veut pas, même si c'est peut-être plus laid ou moins accrocheur, veut pas, quand on voit une vraie image, quand on voit un vrai paysage, même si c'est dans une histoire, dans une ode fantastique comme Le Seigneur des Anneaux, quand on voit un vrai paysage de l'Islande, par exemple, eh bien, ça vient nous rattacher à ça, ça vient créer un lien émotionnel entre l'œuvre et le spectateur. Puis plus on s'éloigne justement d'une méthode de tournage qui est réelle, qui est ancrée dans les effets spéciaux pratiques, comme tu dis, ben plus on va vivre justement ce phénomène-là de se déconnecter d'une œuvre. Puis je trouve ça absolument malheureux pour tout consommateur de cinéma qui ne va pas chercher plus loin, là, parce que ça existe encore, là, c'est vraiment moins accessible.
La seule chose que je rajouterais à ton commentaire, c'est les films ont de plus en plus de budget, mais ont l'air de plus en plus laid. Moi, je le changerais, c'est les films ont de plus en plus de budget, mais ça fait pas d'eux des bons films, parce que Avatar, il y a un très gros budget, mais tu peux pas me dire c'est pas un beau film, c'est presque juste ça que j'ai trouvé qu'il y avait pour lui, là.
C'est juste ça qu'il y a pour lui, Avatar 2, je suis relativement, il a d'ailleurs gagné dimanche le score des meilleurs effets spéciaux.
Mais c'est un beau mélange, parce que oui, ils font des effets spéciaux, mais il y a quand même filmé la plupart des scènes sous l'eau pour vrai, là.
Oui, dans des cuves. Mais ça, c'est pour une raison très simple, Fort, là, c'est parce que animer des cheveux, puis animer des poils, puis des gens dans l'eau qui sont pas dans l'eau, ça a jamais été bien fait.
C'est un mélange d'effets pratiques avec
Je peux voir, mais tu sais, tout ce qui est créature, par exemple, dans le film, c'est des images de synthèse. Là où, dans des séries comme Le Seigneur des Anneaux ou comme Harry Potter, là où on crée une vraie peur, par exemple, devant l'araignée géante, là, dans Harry Potter 2, où on venait créer une vraie peur, ou devant les orques et les trolls dans Le Seigneur des Anneaux, c'est parce que c'était des acteurs, les araignées géantes, en fait, c'était des vraies maquettes électroniques.
Mais c'est parce que t'as très peur des araignées.
J'ai très peur des araignées. Je les ai vues, hein, à Londres, les vraies araignées du tournage.
C'est assez peurant, vraiment, c'est terrible.
T'es-tu déjà allé?
Ouais, j'étais allé, c'est terrible.
Ils tombent dessus dans le dos, c'est super peurant. On en parlera une prochaine fois. Mais tout ça pour dire que c'est ce lien-là qui vient briser. On se déconnecte de l'œuvre cinématographique, puis ça me fait beaucoup de peine. Ce qui me fait beaucoup de peine aussi, là, c'est quand Félix me fait des signes que je ne comprends pas.
Eh ben, c'est ce qui va conclure l'émission d'aujourd'hui. Vous avez été avec Félix, Nathan et Charles. Merci les gars d'être venus.
Ça me fait vraiment plaisir. Hein.
Ouais, manquez pas ça.
Toujours un plaisir, hein, d'être ici.
Toujours. Ben, en tout cas, moi, j'ai bien du fun avec vous autres, les gars.
T'es le seul.
Oh, ça a la main. Je me fais vraiment ça aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. En tout cas, tout ça pour dire que le temps d'un ginto va être à 14h30 avec Rosalie, comme l'habitude. Elle reçoit aujourd'hui Amélie Beaumont, propriétaire des centres de yoga fitness. Alors, ça devrait être très intéressant. Je vous invite à être à l'antenne pour écouter ça. Et on se dit à la prochaine sur les ondes de Chiz 94.3. C'était Les Affamés.
On this side, on reste positif, on garde le focus sur le prize.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Bon gris.
Quoi?
Neuf clones gris? Gluant, mais hot. Au fait, gluant, c'est hot.
Tout est gluant.
Le fait, gluant.
Jeune lover, put up higher, quelque chose qui te regarde pas. Brody Potter, quand tu me parles, même si je te regarde, je te vois pas. Le vaisseau all black, aucun rétro, je sais que la concu vole pas. Si tu peux spot la porte du repart, vas-y, on picone pas. Yeah, full circle, je pense de suivre le combat. Je vais level up chaque matin, oui, je pense qu'il faut prendre le combat. Surtout pour le XP, ils veulent se mettre, c'est chaque des choses qui comptent pas. Y'a aucun cheat code, les moldus peuvent pas nous suivre où ce qu'on va. Non, y'a un spell qui pop des murs où ce qu'on passe. Et si des fois la nuit se fait froid, y'a le matin qui me récompense. Et tout ce temps passé dans le dojo, y'a les skills qui compensent. Funny comment sentir béni, peut mener plus loin qu'on pense. Drop du nuage quand on repense du code gluant. On est voisins de trois entités divines, ils trouvent ça bruyant. Puis que les cantiques sont trop forts, puis que même le soir on garde ça brillant. Puis si jamais les démons s'en viennent, on les éclate en riant. Yeah, yeah. Bang dans l'amour, surfing des vagues d'indifférence. Je me sens détaché des autres comme potentiel, c'est de l'interférence. Fuck avec moi ou tu peux ben vague, j'ai pas de préférence. Mais je vais prendre le style de show love. Je vis cette life dans l'exubérance. Yeah, yeah. Yeah, j'en savoure la différence. Yeah, yeah. Ouais, j'ai tout déjà vu sur l'avance. Yeah, yeah. Mais j'suis trop high pour ces shit là right now. Ouais, yeah. J'ai un ex du périphile, une princesse sur cette garde. Et j'suis là pour get la douceur, les set of tight, la gagne. Ils tournent en rond comme à Daytona, puis trouvent top le gagnant. Ils pourront peindre une sorte ma dick pour que j'vienne stun ton gars. Yeah, rien d'autre à part que de devenir son puissant. Et c'est d'une danse, pis c'est d'une joke, et chez moi je trouve ça puissant. J'suis crampé pendant les scènes sérieuses, ils trouvent tout ça bizarre. Y'a bande de figurants sous-payés qui me regardent en plissant. Ma vie c'est look back, pis voir que j'étais en avant. J't'avais cerné sur place, vois que tu recules malgré tout ce que t'avances. J'suis le victory lap dans le MK blazing sur la lavande. J'passe un coup de vent pour un fantôme pour ses esprits qui se lamentent. Yeah, yeah. Jeune Ashitaka pour ceux qui se le demandent. J'suis venu slicer deux, trois démons, pis leur offrir ce qu'ils demandent. Pis keep looking good en le faisant. Cast and shine sur ce monde. J'suis juste programmé pour d'être tout ça. J'peux pas faire autrement. Yeah, yeah. Yeah, dans savoir la différence. Yeah, yeah. J'ai déjà vu ça d'avance, yeah, yeah. Mais j'suis trop high pour ces shit là right now. Ouais, yeah.
Like small ghost, she got it. Dipsy noodle.